Dans l'imaginaire collectif, le ou la chargée de production est souvent liée au bon déroulement technique des événements. C'est la personne qui s'occupe en urgence de trouver une solution aux problèmes les plus insolvables. Certes, c'est une facette du métier, mais pas que. Quel est le périmètre de ce métier? Quelle est la frontière entre la technique et l'artistique? Entre l'opérationnel et l'administratif? Pour en savoir un peu plus, nous sommes allés à la rencontre de deux profils assez lointains. Florian Berger, de l'IRCAM, et Nora Meyer, de la Cité de la Musique, Philharmonie de Paris. Comment vivent-ils ces responsabilités dans deux structures au positionnement radicalement différent? Nous débutons avec Florian Berger. Bonjour Florian, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter?
Je m'appelle Florian Berger, je travaille au département de la production de l'IRCAM Centre Pompidou, qui est l'institut de recherche, en coordination acoustique-musique.
C'est quoi, pour toi, le métier de chargé de production?
Alors le chargé de production, il va accompagner un projet par la coordination des moyens humains et techniques pour que le projet, donc à l'IRCAM, ce sont des pièces de musique contemporaine qui incorporent une partie électronique, et donc pour que ces projets soient créés lors des concerts ou lors de notre festival manifeste.
Tu pourrais nous donner trois qualités ou compétences que tu estimes indispensables pour faire ce métier?
La première qualité, ça serait indéniablement d'aimer le contact humain, parce qu'on est amené à travailler avec énormément de personnes, des artistes évidemment, les chanteurs, les musiciens, les compositeurs et compositrices qu'on accompagne dans nos studios pendant toute la création des pièces, et les personnels techniques, les intermittents, régisseurs, ingénieurs du son, qui sont envoyés sur les différentes dates et qu'on a aussi en très grand nombre pendant notre festival en juin. Donc c'est important d'être facilitateur pour ces personnes, d'être en quelque sorte une interface qui va centraliser les besoins, planning, etc. Après, une autre qualité va être d'être assez calme et de savoir prendre sur soi, parce que des fois il y a des tensions, bien évidemment, d'autant plus quand l'activité est très intense. Des fois ça peut laisser libre cours au stress et du coup à certains petits dérapages et débordements. Donc il faut savoir temporiser, prendre sur soi et rester calme. Et enfin, dernière qualité, mais ça je pense que c'est plus dans le monde du travail, dans tous les métiers, ça va être d'être assez organisé et rigoureux et d'anticiper.
Du coup, tu nous parlais effectivement de différences un peu de rythme de vie, d'organisation. Justement, c'est quoi cette différence entre le moment où tu montes un projet, tu le prépares, et le moment où il est réalisé?
Je dirais qu'il y a une certaine gradation en fait, ça va être un crescendo, où au début, quand le projet est défini, on a posé les jalons, les étapes de production, le planning est calé, ça va être des petits pointillés qui sont assez réguliers quand le compositeur ou la compositrice va venir en studio travailler, où on va aller faire des repérages, travailler avec le partenaire si on va dans une salle pour toujours penser le planning vers la création. Et ces petits pointillés vont se resserrer pour former une ligne vraiment continue et assez dense à l'approche de la création, où là vraiment c'est continu, on est dedans, on ne pense qu'à la création et à avoir les meilleures conditions possibles pour que la pièce soit jouée et soit réalisée parfaitement selon ce que le compositeur et les artistes ont pensé. Après, le rythme va être assez aléatoire. C'est pas toujours le même rythme d'un projet à l'autre, bien évidemment. Il y a certains projets qui sont en quelque sorte express, où on a très peu de temps pour réaliser la production. D'autres qui vont être vraiment pensés et mûris. Ça va être le cas, par exemple, des opéras, qui sont des productions plus lourdes et qui sont plus réfléchies. Et après, il y a des pièces qui sont plus légères, des pièces, par exemple, vocales, juste un soliste, qui sont plus simples à travailler.
C'est quoi le modèle économique d'un festival aussi important et particulier que Manifest?
Donc le festival Manifest étant organisé par l'IRCAM, et l'IRCAM étant soutenu et sous tutelle du ministère de la Culture, c'est un festival dont la majorité des fonds va être donné par les pouvoirs publics. Il y a aussi bien évidemment du mécénat sur certaines commandes d'œuvres, des subventions qui sont plus ciblées sur des projets, où on va faire des demandes de subventions, donc au Centre National de la Musique, à la SACEM aussi. Et bien évidemment, on a des coproductions, donc les relations avec les partenaires sont importantes dans le modèle du festival, et les recettes de billetterie qu'on va tirer de nos passes manifestes et des ventes de billets uniques.
Donc tu nous as dit être en lien avec beaucoup de monde. Justement, c'est quoi un peu ce rapport aux artistes, aux partenaires, aux intermittents et aux projets, globalement ?
Le premier rapport, le premier relationnel va être avec le compositeur ou la compositrice qu'on accompagne. Et là, je dirais qu'il y a une relation de confiance à instaurer, parce que s'il n'y a pas cette relation de confiance, on peut mener à bien le projet. Mais ça va pas être dans des bonnes conditions, ça va pas être serein. Donc il va vraiment falloir cerner les attentes des compositeurs et des compositrices, sentir où est-ce qu'ils veulent aller, où est-ce qu'ils veulent emmener leurs pièces. Essayer d'anticiper, c'est pas toujours facile, mais essayer d'anticiper leurs besoins, que ce soit technique au niveau des studios. Donc là, il va falloir s'en faire le relais avec notre régie et nos régisseurs généraux. Après, avec les partenaires, pareil, il faut des relations qui soient saines et apaisées. Les échanges au niveau du planning peuvent des fois être un peu conflictuels, où on n'a pas vraiment les mêmes besoins et les mêmes attentes, où nos besoins vont se télescoper. Donc il faut aussi avoir un rapport assez serein et calme pour que les besoins puissent être conciliés. Après, le rapport au public dans les projets, moi, le public, c'est un moteur dans ce métier, dans le sens où je le fais principalement, ce métier, pour à la fois les artistes, mais aussi le public, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de public, ça n'a pas vraiment de finalité de créer une pièce. Alors certes, l'objet musical va exister, mais s'il n'y a personne pour l'écouter, c'est un peu dommage. Et c'est aussi pour ça que les compositeurs et les artistes jouent et composent. Après, le rapport au projet, oui, ça va être c'est un peu comme un petit enfant qu'on va accompagner, qu'on voit grandir au fur et à mesure. Il y a toujours une certaine fierté à la fin de le voir devenir totalement concret et sonner en fait dans les lieux où on va, à la Cité de la Musique, à la Philharmonie, à Radio France ou au Centre Pompidou.
Et toi, comment tu es devenu chargé de production et a fortiori à l'IRCAM ?
Alors à l'origine, moi je viens plutôt de la musique actuelle, j'ai fait pas mal de stages dans ce milieu-là. J'ai fait des stages aussi en production, qui étaient là plutôt dans des festivals de films. J'ai été assistant administratif pour la salle Playel, salle de musique actuelle, qui était une salle de musique classique avant, mais qui ne fait plus que de la musique actuelle maintenant. Tout ce qui est musique classique et à la Philharmonie. Depuis, la Cité de la Musique et la Philharmonie se sont structurées en 2015-2016. Et je suis arrivé à l'IRCAM un peu par la force des choses et par le Covid, puisque on était en arrêt d'activité à la salle Playel, et j'avais envie d'avoir une activité, de pas perdre la main, et aussi de revenir à la production, ce qui correspond beaucoup plus à mon tempérament et à mes aspirations professionnelles. Le poste à l'IRCAM était tout indiqué pour moi.
Comment est-ce que tu abordes les projets que tu montes, que tu prépares et que tu accompagnes ?
J'ai été amené à suivre pas mal de projets, notamment la collection Musique Fiction à l'IRCAM, qui part d'œuvres littéraires et qui sont adaptées sous un dôme ambisonique, donc avec du son qui est en 3D, hein, sous le dôme. Et par exemple, pour aborder une musique fiction, pour moi, il faut lire le livre en premier pour pouvoir voir en fait où va aller le compositeur. On peut déjà sentir selon le compositeur et le binôme qui va constituer avec le metteur en scène ou la metteuse en scène, où est-ce qu'il va aller en fonction du livre, en fonction de l'ambiance. Et c'est pareil, actuellement je suis l'opéra L'annonce faite à Marie du compositeur Philippe Leroux qui va être créé en octobre. La première chose c'est d'acheter L'annonce faite à Marie et de lire la pièce pour vraiment s'immerger dans le projet. Parce que sinon, je pense qu'on est un peu coupé, on peut très bien suivre un projet sans saisir vraiment l'objet, mais ça va être purement technique. On applique des plannings, on embauche des personnes, on fait des contrats de commande, mais on est coupé en fait de la finalité.
Quel est le projet dont tu es le plus fier, voire même le moins fier, s'il y en a eu ?
C'est l'opéra de Philippe Leroux, L'annonce faite à Marie, donc qui va être créé à Nantes le 9 octobre. Alors c'est mon premier opéra, donc évidemment il y a une certaine fierté derrière ça, derrière le fait de suivre un opéra. Et c'est aussi un projet qui est d'ampleur, parce qu'on travaille, la production déléguée est confiée à l'opéra de Nantes. On travaille aussi avec l'opéra de Rennes dans ce projet. Et c'est un projet qui incorpore de la synthèse vocale de Paul Claudel. Donc on a la voix de Paul Claudel qui participe à l'opéra en plus des chanteurs qui incarnent les personnages de Mara, Anne Vercors, etc. Et ça donne une dimension plus intime, parce qu'on a l'impression vraiment d'avoir l'auteur qui est parmi nous, sur scène, même si c'est à titre posthume. On est assez novateur là-dessus, sur la synthèse vocale, on l'a aussi fait il y a peu de temps avec Dalida, où des ingénieurs du son de l'IRCAM avaient travaillé sur la reconstitution de la voix de Dalida pour l'émission de Thierry Ardisson.
Est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a vraiment marqué et dont tu voudrais nous parler ?
La trilogie new-yorkaise de Paul Auster, qui regroupe trois romans nouvelles en quelque sorte, qui questionne l'identité et l'existence. Et je mettrai ça en parallèle avec la symphonie numéro 9 de Gustave Mahler, qui a un peu aussi ce questionnement de l'existence pour moi, et qui est un peu une bande-son à ce questionnement. C'est assez tragique, et c'est sublimé par la composition, je trouve, cette dimension tragique.
Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait faire ce métier ?
D'être curieux. Sans curiosité, je pense que c'est compliqué de faire ce métier. Il faut être organisé, il faut aimer le contact, enfin travailler avec les intermittents, les artistes, etc. Il faut avoir la vocation et une passion aussi pour la musique, pour la culture en général, pour faire avancer et rayonner la culture.
Comme le dit Florian, le ou la chargée de production a pour mission d'accompagner un projet avec des moyens humains et techniques, sous-entendant donc des qualités relationnelles hors pair, mais également une rigueur et expertise des outils à disposition. Le spectre de la production s'étend de l'administration à la gestion des artistes. Au prochain épisode, nous aurons rendez-vous avec Nora Meyer, chargée de production à la Cité de la Musique Philharmonie de Paris. Les enjeux et missions seront-ils les mêmes ? Affaire à suivre.